I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Ce podcast a rarement aussi bien porté son nom, puisqu'aujourd'hui, mon invitée est la co-autrice du manuel d'activisme féministe qui paraît ce 5 mars aux éditions des Femmes. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'un des deux visages de Clit Révolution, Elvire Duvel-Charles. Bonjour Elvire.
Bonjour.
Il faut avouer qu'Elvire, notamment avec ses années passées chez Femen, où elle a rencontré son acolyte Sarah Constantin, en connaît un rayon en matière d'action militante, probablement d'autant plus depuis qu'elle a parcouru le monde à la rencontre de femmes qui ont du clito. Alors on va revenir sur cette aventure pas banale, mais avant on va remonter aux sources de l'activiste que tu es devenue. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation ?
Ma première indignation ? Alors la toute première, je serais incapable de la... formuler parce que j'ai toujours été une enfant très indignée. Mais je sais que mon premier déclic, en tout cas, où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, c'est quand. C'est la première fois que j'ai vu une action féminine, en fait. J'étais dans un milieu où je travaillais pour une entreprise avec une équipe très machiste. Et en fait, j'étais victime de harcèlement sexuel, ce que j'avais pas encore compris à l'époque, c'est-à-dire je pensais que c'était juste complètement normal comme manière de fonctionner. Et c'est en voyant une action de Femen que j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte que c'était pas à moi de m'adapter en fait à ces mecs, mais à ces mecs de s'adapter à moi. Et c'est le moment, je pense, où j'ai... C'est pas une première indignation, mais c'est la première indignation... que j'ai réussi à identifier en tout cas et qui m'a fait passer à l'action.
Donc avant ça, tu avais eu toute une enfance d'enfant indigné. C'est quelque chose que tu tiens de ta famille ou pas du tout ?
Oui, je pense que je le tiens beaucoup de ma famille. Mon père était noir, exilé d'Haïti. Ma mère elle est blanche, mais a toujours été très féministe. Donc en fait, je pense que j'ai un peu baigné dans... une notion assez claire des inégalités qu'il pouvait y avoir autour de moi et des injustices qu'il pouvait y avoir aussi. Et dès que j'étais petite, en fait, on m'a très vite expliqué cette situation, elle n'est pas juste. Donc c'est quelque chose, disons, j'ai toujours grandi avec une conscience assez prononcée des injustices qui me faisait énormément souffrir et où en même temps, j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose. Donc je faisais un peu... ce que je pouvais. Et puis j'ai fait un peu un grand écart parce que quand j'étais petite, au début j'étais dans une école publique qui était une ZEP à Ivry, dans laquelle il y avait quasiment que des personnes racisées. J'étais presque limite la seule blanche. Puis très vite, quand est arrivé le moment d'aller au collège, ma mère m'a mis dans une école privée où c'était complètement autre chose et j'étais dans une école où je me suis retrouvée la seule noire et d'un coup très pauvre. Enfin, en fait, du coup, j'ai quand même... vu de mes propres yeux d'enfant, des situations complètement différentes et des inégalités, même de la manière dont était, enseigné le français à l'école. Enfin, c'était assez clair.
Par exemple, sur ce sujet-là, qu'est-ce qui était différent ?
Je sais pas. Je sais que ma primaire, elle était super, mais on était 30, entre 33 et 35 par classe, alors que quand j'ai bougé dans le privé, on était 20. Enfin, il y avait aussi, les sorties scolaires. On avait des sorties quand j'étais dans le privé, je me souviens qu'on allait tout le temps au musée, on faisait plein de sorties, on avait des voyages scolaires en Italie, en Grèce, enfin, ça n'avait aucune commune mesure avec ce qu'on avait, et puis surtout, il n'y avait pas forcément la même attention, mais après, au final, moi, j'avais préféré le public, enfin, l'école privée dans laquelle j'étais, je l'ai hyper mal vécu, parce que, ben, en fait, au final, j'ai été harcelée aussi, il y avait des moqueries hyper racistes dont les élèves étaient sans doute pas conscients, mais en fait c'était hyper raciste et du coup je me sentais pas trop à l'aise dans ce milieu là.
Ouais, donc c'est quand même plus âgé finalement où tu t'es dit ok, je peux peut-être faire quelque chose contre ces injustices que je subis au quotidien finalement depuis longtemps.
Oui, alors après je sais pas si j'avais identifié le fait que c'était moi qui les subissais, même si j'en ai évidemment subi, mais je pense que oui, il y a eu un moment où, pendant très longtemps, j'avais l'impression que tout ça était plus grand que moi, que je pouvais rien y faire, et c'était hyper déboussolant, hyper frustrant, et puis très attristant aussi, et je pense que aller vers l'activisme, c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience, en fait, j'ai pris conscience du fait qu'on pouvait faire quelque chose. Et en fait, on a quand même des leviers de pouvoir, même en tant que simple citoyenne, même si on est seul, même si on est deux. On n'est pas obligé d'avoir une grosse ONG. Enfin, il y a toujours ce truc-là où tu as l'impression en fait, que c'est vertigineux et qu'il faut être absolument une grosse association, avoir les épaules solides, etc. Mais en fait non.
Donc ça, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu l'objet du livre que vous publiez avec Sarah, là, bientôt, car on enregistre ce podcast avant la publication.
Ouais.
Mais toi, à l'époque, il n'y avait pas de manuel d'activisme féministe.
Non.
Donc t'as fait comment ?
J'ai appris avec Femen. C'est-à-dire que quand Femen est arrivée en France, il s'agissait d'activistes ukrainiennes qui avaient déjà quelques années d'existence derrière elles et d'expérience, du coup. Et c'est vrai que moi, c'est là que j'ai tout appris. Enfin, j'ai appris à créer un slogan, j'ai appris à concevoir une action, j'ai appris comment avoir un impact, enfin, comment rendre une action impactante juste en créant des images qui vont être puissantes. J'ai appris... Bah, comment gérer un groupe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend des décisions collectivement, comment est-ce qu'on fonctionne en fait, et comment est-ce qu'on pense à des actions, comment est-ce qu'on arrive à s'infiltrer, je sais pas, à des conférences de presse, à des événements, et comment est-ce qu'on y arrive. Et en fait, c'est sûr que moi, c'est là-bas que j'ai tout appris. Après, j'ai appris d'autres choses par la suite en allant militer. Avec d'autres groupes, d'autres collectifs, etc. Mais c'est clair que Femen, ça a été vraiment... ça m'a facilité la tâche, dans le sens où je ne me suis pas retrouvée démunie par rapport à ça, parce que j'avais en face de moi des personnes qui avaient déjà testé plusieurs modes d'action, hein, parce que le mode... Enfin, Femen, tel qu'on les connaît aujourd'hui, c'est pas du tout, en fait, ce que c'était au tout début, quand elles ont commencé. Elles ont testé plein de modes d'action différents.
Est-ce que tu peux rappeler peut-être un petit peu à quoi ça ressemblait quand ça a commencé ?
Oui, alors elles ont fait tellement mille trucs. Déjà, à la base, c'est un groupe de lecture. Donc, c'est né quand même d'un groupe de lecture, mais elles ont essayé, je sais pas, moi, dans mes souvenirs, elles ont, déjà, au départ, le topless est arrivé assez tard, en fait, dans Femen. Donc, avant, elles ont essayé d'autres trucs. Elles ont essayé... Moi, je me souviens d'avoir vu des images où elles ont des ballons roses et elles sont habillées en... limite en Barbie. Elles ont fait des mises en scène... très chorégraphiée aussi. Enfin, en fait, elle testait plein de trucs différents. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un mouvement topless. Mais, et reconnaissable avec un slogan sur les seins et une couronne de fleurs dans les cheveux. Mais avant d'avoir cette identité visuelle, elles sont passées par plein d'étapes différentes. Elles ont distribué des flyers dans la rue. Enfin...
Et toi, du coup, quand tu vois cette première action dans les médias, j'imagine, tu te dis « Ok, moi, je vais les rejoindre », alors que jusque-là, tu n'étais pas activiste. Ou alors, ça s'est fait par étapes.
En fait, il n'était pas question de les rejoindre, parce que quand j'ai vu la première action, elles n'étaient pas encore implantées en France. Et elles étaient venues faire une action devant chez Dominique Strauss-Kahn, à l'époque de l'affaire Mahfoud Sassou Diallo. Il avait été donc accusé de viol sur cette femme de chambre. Et du coup, leur action, elle m'avait juste interpellée. Je me souviens qu'à l'époque, c'était des rushs, en fait. C'est dans le cadre de mon travail que j'ai vu. Donc, c'était des images où il n'y avait pas de légende. Il y avait juste marqué des féministes ukrainiennes devant GDSK, mais il n'y avait pas marqué le nom du groupe. Donc ça, ça a été plus un déclic. Et l'année d'après, en fait, un an plus tard, elles se sont implantées en France. Et là, tout de suite, en fait, je crois que je les ai vues au zapping ou un truc comme ça. Et c'est Ina qui parlait. Et du coup, j'ai pu identifier, enfin, j'ai fait le lien entre les images que j'avais vues l'année d'avant et elles. Et j'ai pu trouver, du coup, le nom de ce groupe qui était Femen. Et après, je me suis... Enfin, j'ai trouvé la page Facebook et j'ai écrit, mais dans la... Enfin, c'est-à-dire dans l'heure, j'ai écrit... Enfin, c'était tout de suite. J'ai trouvé, j'ai vu qu'il y avait marqué « On cherche des personnes, des Françaises pour rejoindre nos rangs ». J'ai envoyé un email à 2h du matin pour dire « Je veux rejoindre vos rangs ». Ina, elle m'a répondu une demi-heure plus tard « Ok, rendez-vous demain 14h ». Et le lendemain, à 14h, j'étais au Lavoir Moderne pour la première réunion, quoi. J'étais au taquet.
Waouh. À aucun moment, t'as été intimidée ou tu t'es dit « Moi, est-ce que je suis capable de faire ça ?» T'as jamais douté de ta légitimité?
Non, mais parce qu'à l'époque, Femen n'était pas connue, en fait, en France. Donc, j'avais pas du tout conscience de tout ce que ça impliquait. C'était vraiment un truc, un cri du cœur où j'avais vraiment envie de mettre mon corps au centre de ma lutte. C'est pour ça que je m'étais pas engagée, en fait, jusqu'avant. Enfin, jusqu'à présent, c'était aussi ce truc-là de... tu vois, je pense que s'il n'y avait pas eu Femen, j'aurais rejoint la Barbe, qui étaient les seuls activistes à l'époque, à ma connaissance, en France.
Est-ce que tu peux rappeler un peu ce que c'est la Barbe? Je suis pas sûre que tout le monde ait la référence.
Oui, la Barbe, c'est un groupe hyper cool, enfin, hyper chouette d'activistes qui utilisent, justement, qui mettent aussi leur corps au centre de leur lutte. Et elles vont à des séminaires, à des événements, etc., où il n'y a pas une parité qui est respectée dans les postes de direction ou de pouvoir, etc. Et elles viennent avec une fausse barbe et elles lisent toujours à peu près le même discours pour féliciter les gars de bien avoir maintenu le patriarcat et de bien avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas de femmes aux positions de pouvoir et de responsabilité, etc. Et c'est hyper drôle. Parfois, elles ont des réactions qui peuvent être très violentes. Et je le trouve hyper chouette parce que justement, elles ont à la fois cette dérision. Elles y vont de manière frontale, mais en même temps avec beaucoup de dérision. Et je les trouve hyper chouettes.
Je l'entendais et je me demandais d'où ça vient. Donc voilà, il y a un bruit de piano, mais ce n'est pas grave. Tu disais du coup...
Si j'avais pas été chez Femen, j'aurais rejoint la Barbe. Et donc du coup, c'est ça qui m'a plu aussi. Donc non, j'étais pas impressionnée dans le sens où je me rendais pas compte de l'impact médiatique que ça allait avoir et de l'exposition médiatique du coup que ça allait avoir. Pour moi, c'était un peu un truc... souterrain, disons, c'était plus même pour me faire du bien à moi et pouvoir exprimer ma colère que quelque chose vers l'extérieur, en fait. Et par ailleurs, je me rendais pas compte non plus du danger que ça représentait, enfin, du fait que ça allait aller avec énormément de menaces, d'hostilité, etc. Donc j'ai pas eu peur. Et c'est peu de temps après les premières actions, que j'ai compris que c'était plus sérieux que ce que je pensais, mais pour moi, c'était pas un engagement complètement fou, quoi.
L'idée, au départ, du coup, c'était juste d'exprimer une colère sur laquelle même, j'ai l'impression que t'avais pas forcément mis de mots avant, d'après ce que tu racontais au départ.
Ouais, c'est exactement ça. C'est une colère que j'arrivais pas à forcément identifier. Mais parce que je pense que quand... je pense qu'en fait, on peut mettre du temps à identifier les violences dont on est victime quand on est soi-même victime. C'est beaucoup plus simple de les identifier quand c'est une autre personne. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur l'école, moi, pendant tout mon collège, on m'a appelée Ronald McDonald et Chicken McNuggets parce que j'étais la seule fille qui avait les cheveux bouclés et que j'avais une afro. Et du coup, ça a été comme ça pendant hyper longtemps, j'en pleurais, etc. C'était vraiment, genre, lourd. Mais ça a mis... Enfin, c'est qu'il y a quelques années que je me suis rendu compte que c'était hyper raciste.
Oui.
Avant, je le voyais un peu comme un truc de moquerie. Et ça, c'était la même chose quand j'étais victime de harcèlement sexuel. Enfin, en fait, c'est à chaque fois, je pense que tu mets beaucoup de temps, et je l'ai compris qu'en entendant d'autres personnes parler de ces choses-là, et où j'étais là, genre, ah, mais en fait, c'est ça que j'ai vécu. Mais en fait, ouais, ce qu'il a vécu, c'est hyper raciste, ou ce qu'elle a vécu, c'est hyper sexiste. Et du coup, j'ai mis du temps à l'assimiler, mais il y avait quand même une colère en moi. Et donc, il y avait quand même un truc en moi qui faisait que j'avais envie de lui péter la gueule, mais je savais pas trop pourquoi, en fait.
Et quand tu t'es engagée dans Femen, du coup, tu parlais de la violence et des menaces qui vont avec. Ça, tu l'as bien vécu, ce passage-là, cette réalisation de « Ah, ça va pas être aussi simple, peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, que ce que j'avais prévu
» Oui, je l'ai bien vécu parce que... Bah, parce qu'on était un groupe, en fait. On était un groupe, on était hyper soudés, on vivait toutes les mêmes choses, donc du coup, c'était plus quelque chose une violence qui est dirigée juste vers soi, mais c'est dirigé par un groupe. Et on voyait aussi que... En fait, moi, je m'attendais pas du tout à ces réactions. Par exemple, après l'action qu'on a eue à Notre-Dame, moi, je pensais vraiment que dans un pays laïque... Donc, l'action, c'est... Tu veux que je répète ? L'action, c'est... c'était à l'époque du vote de la loi pour le mariage pour tous, dans lequel plusieurs représentants de l'Église avaient vraiment tenu des propos abjects contre non seulement le projet de loi, mais contre les homosexuels. Et en fait, 2 semaines avant, il y avait une grande prière de rue devant l'Assemblée nationale contre les homosexuels et pour qu'ils se soignent, etc. Donc c'était hyper violent. Et nous, ce qu'on avait fait en réponse à ça, c'est que le pape Benoît XVI venait d'annoncer sa démission. Et du coup, pour fêter ça et surtout pour répondre à toutes ces prières de rue qui avaient lieu contre les homosexuels, on avait été sonner les cloches de Notre-Dame, qui avait à l'époque des nouvelles cloches qu'ils avaient exposées en fait, dans l'église. Et du coup, on avait sonné ces cloches-là. Évidemment, c'est un nu puisqu'on est fémène. Et en fait, moi, je pensais vraiment, avec cette idée-là de se dire, bah, dans un pays laïque, si l'église commence à s'inviter dans la rue peut s'inviter dans l'église. Voilà. C'est de bonne guerre. Et donc, les slogans, ouais, c'était Bye Bye Benoît, Pop No More, In Gay We Trust, qui était, voilà, In God We Trust, In Gay We Trust. Et en fait, moi, je pensais vraiment... C'était la première action de Femen contre l'Église. Et je pensais vraiment que ça ne poserait pas de problème. Parce qu'il me semblait qu'on était dans un pays laïque et que du coup, le fait d'être seins nus dans une église, c'était pas scandaleux. Enfin, je pensais vraiment que... En plus, dans une église qui est Notre-Dame, c'est-à-dire un musée, en fait, ça serait pas scandaleux. Et en fait, bah si. Si, mais du coup, ça m'a aussi confortée dans le fait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc, ça m'a pas du tout refroidie, au contraire, ça m'a confortée parce que les réactions qu'il y a pu avoir, c'était vraiment des réactions qui te montraient qu'on était encore dans un monde moyenâgeux, quoi.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas s'engager parce qu'elles ont peur de cette confrontation, à mon avis, Bah, en fait, du fait qu'à partir du moment où t'exprimes des idées, tu fais pas l'unanimité. Et en particulier quand tu les exprimes de façon visible, comme vous l'avez fait avec Femen, c'est vrai que bah, vous dérangez, en fait, quelque part. Et c'est hyper politique de venir déranger comme ça à la société.
Ouais, mais pour moi, c'est un peu le but de l'activisme. C'est de se dire... il faut... En fait, il y a tout un tas de problématiques qui sont complètement... Ouais, il y a comme une omerta sur ces sujets-là. Et pour moi, l'importance de l'activisme, c'est justement d'essayer de ramener des sujets sur le tapis et de foutre un coup de pied dans la fourmilière. Donc du coup, évidemment que c'est choquant, parce que évidemment que quand t'es activiste, tu vas pas faire une action de bisounours, en fait. Tu vas crier trop fort, entre guillemets, bouger trop fort. Mais ça permet aussi de déclencher derrière toute une série de débats et de discussions qui sont hyper intéressantes. Et peu importe le mode d'action que tu choisis, après Femen, c'est un mode d'action qui est peut-être un peu fort dans le sens où... Ouais, bah, c'est toujours des actions qui sont hyper impressionnantes, etc. Et tu peux avoir d'autres actions qui sont un peu moins grandioses et qui ont tout autant d'effets, en fait. Mais je pense qu'il faut de tout pour faire bouger notre monde.
Oui, voilà. Il y a une complémentarité des actions, effectivement.
Ouais.
J'imagine que chez Femen, vous avez souvent essuyé des insultes telles que extrémistes ou radicales, donc qui étaient perçues par les gens qui prononçaient ces mots-là comme des insultes. Je ne sais pas comment vous les recevez, chez Femen quand ça se passe comme ça?
Je t'avoue que je m'en souviens pas parce qu'en réalité, je me souviens surtout de menaces de mort et de menaces de viol, etc. De la part et de l'extrême droite et des religieux. Mais ça me semble un peu loin. Après, moi, je suis plus dans Femen, donc ça fait longtemps que je ne suis plus ces insultes-là. Ça me semble un peu loin. Je sais juste qu'à un moment, on a été accusé par un député ou je sais pas, un gars de droite d'être une secte. Et donc, il y a une vraie enquête de l'Observatoire des sectes. Évidemment, ils savaient très bien qu'on n'était pas une secte. C'était juste pour nous faire chier. Hein. Mais c'était assez drôle. Mais après, moi, je peux comprendre aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont tellement pas posé la question des problèmes d'inégalité entre hommes et femmes, entre homosexuels et hétérosexuels, qui sont tellement pas posé ces questions-là que du coup ça leur semble extrême comme mode d'action pour quelque chose qui est pour eux un non-problème. Moi je me souviens très bien en 2012 quand j'ai rejoint Femen, donc c'était l'ouverture vraiment de Femen en France. C'était fin 2012 et je me souviens très bien que des journalistes, mais y compris de médias hyper sérieux, enfin tu vois, hyper reconnus, etc., nous posaient la question qui revenait le plus souvent, c'était mais est-ce qu'on a besoin de féminisme en France aujourd'hui? Et c'était fou, enfin aujourd'hui jamais un journaliste poserait la question, mais à l'époque on en était là en fait, donc on était à un stade de oui, en Ukraine on comprend parce qu'il y a encore des problèmes à régler, mais en France non, il n'y a pas de problème. Voilà, mais donc on en était là, donc je peux comprendre que pour des personnes qui en sont là dans leur tête et qui ont l'impression qu'on a le droit de vote, c'est ok, je peux comprendre ouais, que pour ces personnes-là, elles aient l'impression qu'on fasse tout un front de pas grand-chose.
Je te posais la question, en fait, c'est intéressant que tu parles de journalisme, parce que l'autre jour, moi on m'a interviewé pour ma chaîne YouTube que j'ai à côté, sur une radio, et on m'a demandé... La dernière question de l'interview, c'était « Il y a deux types de féminisme, on va dire le féminisme radical et le féminisme modéré. Vous, auquel vous vous identifiez ?» Et ça m'a, en fait, ça m'a vraiment choquée et fait comprendre que, effectivement, c'était comme ça que ça pouvait être perçu de l'extérieur. Et j'ai vraiment eu le sentiment que c'était fait pour faire polémique et pour diviser. Soit c'était de l'ignorance, soit c'était ça, ou bien les deux combinés, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je posais cette question en fait sur l'extrémisme, et parce que je pense que quand on parle, je pense que cette personne, quand elle dit féminisme radical, l'image qu'elle a en tête, c'est typiquement les femmes.
Qui est en plus pour moi pas un féminisme radical. Tu vois, pour moi le féminisme radical, c'est le lesbianisme politique, c'est des femmes qui refusent tout type de mixité dans tout type d'environnement. Enfin, tu vois, c'est... Pour moi, c'est ça, le féminisme radical, c'est pas du tout. Enfin, Femen n'a pas des idées radicales, hein, c'est pas...
Comment t'as vécu tes années dans ce groupe-là, avec, y compris toutes les menaces que vous receviez, dont tu parlais tout à l'heure? À aucun moment ça t'a découragé ou fini par te dire « Ok, c'est trop, ça devient dangereux pour mon intégrité, en fait, et j'arrête ?»
Bah si, bah, c'est comme ça que j'ai arrêté. Hein. Si, si, bien sûr. En fait, pendant toute une partie de ma vie au sein de Femen, ça me dérangeait pas plus que ça, mais parce qu'il y avait le groupe, etc. Et puis si, en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par me décourager. Et je pense que pas mal de filles ont fini par se décourager aussi. Après, on a été vachement atteintes par les attentats de Charlie Hebdo. On avait plusieurs amis à la rédaction, dont certains sont morts. Et donc, il y avait un peu un truc de... On passe de menaces écrites que tu prends jamais au sérieux à quelque chose de très sérieux. Du coup, je pense que ça nous a foutu vraiment un gros coup de... Ouais, un gros coup de massue sur la tête. Et ça n'a pas été tout de suite après, mais en fait, très peu de temps après, moi, je suis partie. Mais parce que je ne me sentais plus en sécurité. Peut-être de manière irrationnelle, d'ailleurs. Enfin, mais je ne me sentais plus en sécurité. J'avais l'impression qu'on ne se battait pas à armes égales. Et puis, c'était devenu trop lourd pour moi, moralement. Et donc, comme je voyais qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient, pour moi, il était temps aussi de passer à autre chose et de laisser les nouvelles. Même si, là, maintenant, même quand elles font des actions collectives, etc., j'y vais, enfin, j'y participe. On est restés amis, et quand elles ont besoin d'un coup de main, j'y vais. Mais ça a demandé beaucoup d'énergie, et je pense aussi que ça a demandé beaucoup de temps. Et qu'il y a un moment, je veux bien... vivre dans un squat avec très peu d'argent, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut aussi que je pense à ma carrière, à ce que je vais faire, etc. Et du coup, c'était aussi un moment de me dire, ok, bah là, il faut vraiment que je commence à travailler, que j'ai un travail à temps plein. Je ne peux plus, en fait, avoir ce mode de vie parallèle parce que ça devient trop lourd.
Et comment tu as décidé de rebondir après ça, alors ?
Bah, en réalité, c'est plus parce que j'ai commencé à rebondir que j'ai arrêté Femen et que parce que je n'arrivais pas à gérer tous mes engagements en même temps. Mais à l'époque, je m'étais mise dans un autre collectif qui s'appelait le collectif 52. Et du coup, elles étaient en train de monter leur collectif. Et donc, j'étais là. Il y avait Sarah aussi qui était avec moi. On était là un peu pour essayer d'aider, de trouver des trucs à faire, de mener des actions, etc. Et du coup, en fait, l'un dans l'autre, plus j'ai milité chez 52, moins j'ai milité chez Femen. Au final, je suis partie assez vite de 52, mais il y a quand même eu ce truc-là. Puis après, il y a eu Clit Révolution. Donc à chaque fois, moi, je mets de côté un engagement pour un autre, mais au final, c'est la même chose, c'est juste des formats différents. Parce que je pense que c'est important aussi, parce que tu ne te confrontes pas aux mêmes personnes, que tu ne rencontres pas les mêmes personnes, tu n'as pas les mêmes conversations. Et je pense que c'est important aussi pour enrichir sa pensée que d'être au contact de femmes qui n'ont pas forcément la même vision que toi, qui n'ont pas forcément la même histoire que toi ou que tes comparses. Et ça me semble aussi important. C'est comme ça qu'est née Clit Révolution.
Est-ce que tu nous raconterais un peu la genèse de Clit Révolution, du coup ? Donc, ouais. un projet que tu mènes avec Sarah Constantin, qu'on a cité, mais je ne sais pas si je l'avais dit très précisément.
Oui, en fait, avec Sarah... Donc, Sarah Constantin, mais après, je l'appellerai Sarah. Avec Sarah, on s'est rencontrés chez Femen, fin 2012, début 2013. On est devenus amis. Et en parlant, on s'est rendu compte que... Il y avait un espèce de paradoxe entre le fait qu'on était d'un côté hyper vaillante et courageuse quand il s'agissait de faire des actions avec Femen, où on pouvait aller... on mettait vraiment en danger nos corps. Et que...
Ouais, je ne l'ai pas répété, mais vous avez cumulé un certain nombre de procès et de condamnations, y compris à l'étranger.
Ouais.
À vous deux.
Ouais, on a pas mal essuyé de condamnations, etc. Et on savait qu'on était en proie à ces risques-là, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que paradoxalement, dans notre intimité et dans notre vie personnelle, on mettait complètement nos valeurs féministes, on les posait sur le porte-manteau en rentrant, quoi. Et puis au final, on n'arrivait pas du tout à se libérer des injonctions sexistes que tu peux avoir dans ta vie de couple, dans ta vie sexuelle. Il y avait vraiment un truc pas normal, quoi. Et on se disait, mais quand même, c'est fou que on se retrouve à, à pas oser dire, par exemple, qu'on n'a pas envie de baiser, ou à pas oser dire qu'en fait, c'est pas top, dans notre intimité, alors qu'on fait des trucs de psychopathe dans la rue, où on risque de la prison. Enfin, en fait, il y avait vraiment un truc qui n'allait pas. Et on s'est dit, si nous, c'est comme ça, mais qu'est-ce que c'est la vie intime des filles qui ne sont même pas en train de sauter sur des voitures seins nus. C'est qu'il y a un problème, en fait, c'est que ça va pas. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est née Clit Révolution. C'était vraiment ce truc-là de paradoxe entre la vie intime et la vie publique. Et notre idée, c'était vraiment de dire, mais en fait, l'intime, c'est politique. Parce qu'en fait, on a toutes les mêmes problèmes dans l'intimité. Donc, ça en devient politique parce que ça devient systémique.
Ça a été dur à faire passer comme message, ça, ou c'était assez communément admis dès que vous avez posé ce constat-là ?
Alors, ça dépend auprès de qui. Ça a été très dur à faire entendre auprès des chaînes qui nous disaient toutes « soit c'est trop pointu, soit c'est une question de niche, vous devriez faire ça avec un magazine féminin ». Enfin, il y avait vraiment un truc, ça n'allait pas. Mais après, une fois qu'on a trouvé notre chaîne, donc on a... France TV Slash qui a signé tout de suite, en fait, dès qu'ils ont vu le pilote, ils étaient partants. Désolée, mais ça me perturbe les gammes.
Oui, il y a quelqu'un qui fait ses gammes au piano au-dessus. Peut-être qu'on va juste revenir sur ce que c'est Clit Révolution, parce que tu parles de chaîne, etc. Mais au cas où certaines personnes soient passées à côté, qu'est-ce que. Donc, tu as parlé de la genèse et du constat d'origine. Qu'est-ce que vous en avez fait une fois que vous aviez ce constat ?
Une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit. Il faut qu'on en fasse une série. Et on va faire une série où on part à la rencontre de femmes qui ont du cran aux quatre coins du monde et qui, elles, ont déjà commencé leur déconstruction et ont déjà fait ce lien entre l'intime et le politique. Et donc l'idée, c'était de pouvoir nous déconstruire en allant au contact d'autres activistes et d'avoir une progression des épisodes qui aille du plus intime au plus politique. C'est-à-dire, dans les premiers épisodes, on parle... C'est Sarah qui raconte qu'elle aime pas sa chatte et qu'elle l'a toujours trouvée moche. Après, on va chez un chirurgien qui commence à nous parler de toutes les opérations qui sont possibles et imaginables et de pourquoi c'est formidable, etc. Et puis après, on va rencontrer Olympe de G, qui est une réalisatrice de porno féministe et qui fait du porno audio. Donc, on a fait un porno audio avec elle. Puis après, on parle de masturbation avec Heidi Switch. Et en fait, progressivement, plus ça va, plus le quatrième épisode après Heidi Switch, il me semble que c'est avec Betty du groupe Mali qui lutte au Maroc pour tout ce qui est droit reproductif. Parce que là-bas, ils ont des lois hyper... t'as pas le droit de baiser avant le mariage, t'as le droit de rien faire. Dès qu'il s'agit de cul, t'as le droit de rien faire. Et du coup, en fait, plus ça va... plus on va vers quelque chose qui est de plus en plus éminemment politique. Et du coup, ça a marché très bien. À côté, on avait un compte Instagram sur lequel on parlait beaucoup de sexualité, d'activisme et de féminisme. Et du coup, voilà. Enfin, on a fait ce truc qui a duré... Bah, c'était toute l'année dernière. En fait, là, on va avoir un an, le 5 mars. Bah, enfin, voilà. Ça sera l'anniversaire de la série.
Et la naissance d'un super livre pour continuer d'agir, justement. Tu disais que le message avait été compliqué à faire passer auprès des chaînes. Ouais. Est-ce que c'était le cas aussi auprès d'une certaine partie du public, ou est-ce qu'au contraire, le public, immédiatement, vous avez senti qu'il y avait un vrai sujet puisqu'il y avait des réactions?
Ah non, il y a eu un engouement immédiat. Il y a eu un engouement immédiat de la part des personnes qui ont vu la série, qui étaient soit des personnes qui connaissaient déjà France TV / et qui découvraient la série comme ça, soit des personnes qui nous suivaient déjà sur les réseaux sociaux.
Oui, parce qu'avant de réaliser la série, vous avez quand même passé un certain nombre de temps à réunir une communauté sur Instagram.
Ouais, on a passé un an à réunir la communauté, mais parce que déjà, comme on était en train de commencer à proposer aux chaînes, pas un an d'ailleurs, on a passé 6 mois à réunir la communauté, parce que comme on voyait que ça allait être compliqué avec les chaînes, nous on était déjà en train de se dire bah peut-être qu'on peut lancer un crowdfunding, ou peut-être qu'on peut trouver un moyen parallèle, en fait, de alternatif de produire cette série qui coûte quand même très cher, parce qu'on va quand même dans plein de pays différents et qu'on a une équipe de 5 personnes à payer, même de plus. Donc ça, on s'était dit voilà, on crée cette communauté là comme ça on peut compter dessus si jamais ça marche pas. Et il y avait aussi cette idée de pouvoir avoir des conversations autour de la sexualité, etc. Juste de prendre la température de où en sont les gens, en fait, dans leur déconstruction, etc. Et donc, par contre, les retours ont toujours été hyper rapidement très positifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas tant de vues que ça.
Vous êtes à combien, là? J'ai pas vérifié les... Ouais, peu importe.
Je sais pas exactement. Enfin, je sais que... Genre, le premier épisode, il doit être à 100 000, et puis après un peu moins. Mais en fait, on était shadowbanné, ce qu'on appelle shadowbanné par YouTube, c'est-à-dire que tu ne trouves pas, tu ne tomberas jamais sur un épisode de Clit Révolution si tu n'as pas Clit Révolution en entier. Donc ça n'apparaîtra jamais dans tes suggestions. Et en fait, il se trouve que les suggestions, ça génère 75% du trafic. Donc, en fait, les personnes qui tombent sur Clit Révolution, c'est des personnes qui connaissent déjà Clit Révolution.
Donc ça, en fait, c'est aussi une autre manière de faire le lien entre le sujet que vous traitez est intime, mais aussi extrêmement politique. Parce que pourquoi c'est shadowban sur YouTube? Parce que
y a
ça dérange
clit.
Les annonceurs.
Ouais, parce qu'il y a le mot clit. C'est vraiment juste parce qu'il y a le mot clit et il y a des mots comme ça. Lesbienne en faisait partie aussi, mais je crois que là, ça y est, c'est parti. Il y a des mots clés qui sont censurés, soi-disant à la base pour... éviter, en gros, que les jeunes tombent sur de la pornographie. Sauf qu'en réalité, il suffit de voir 2 secondes de Clit Révolution pour comprendre qu'on parle pas du tout... Enfin, on parle de cul, mais on n'est pas du tout un contenu pornographique. Voilà.
Et du coup, ça, c'est une résistance que vous avez réussi à briser chez France TV /
Ouais, mais après, France TV / ont toujours été hyper progressistes. Nous, quand on est arrivé, ils existaient depuis pas très longtemps, mais quand on regarde maintenant Scam, sexiste aussi. En fait, il parle énormément de sexualité de manière très ouverte, de manière très documentée aussi, et de manière très libre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de problème de censure, de... À chaque fois qu'on avait des retours, c'était des retours vraiment sur le montage, mais d'un point de vue, entre guillemets, artistique et journaliste, enfin, genre vraiment juste sur le rythme, etc. Mais jamais sur ça, on peut pas dire, non, ça, c'est trop trash. Il y a jamais eu ça. Et pourtant, on parle de squirt, on parle de mouille, de cyprine, de plein de choses. Enfin, et ça n'a jamais été un problème.
Ouais, ça, c'est quand même aussi un changement, peut-être qui est permis par une certaine frange d'Internet qui a du mal à se voir aussi dans les médias grand public, je pense, pour l'instant. Mm. Malheureusement, mais c'est chouette, du coup, de voir des projets comme le vôtre qui y contribuent. Et c'est aussi quelque chose, du coup, que vous avez cherché à éviter sur le livre en décidant de le financer par crowdfunding.
Oui, pour nous, le crowdfunding, c'était hyper important. Donc nous, on a fait notre... On a financé notre livre grâce à KissKissBankBank, qui est une plateforme de financement participatif. Et donc, on a fait un système de pré-vente où on s'est dit il faut qu'on pré-vende 2000 livres pour pouvoir faire ce livre. Après, la raison pour laquelle on a fait ça, c'était, en effet, il y avait une grande partie de... On veut avoir une liberté totale sur le contenu qu'on va écrire. Et à la fois aussi une question de rémunération, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand t'es autrice ou auteur, tu touches... Allez, si t'as bien négocié, tu touches 10% de ton livre, et encore. Nous, on est deux, donc ça faisait 5%. Donc pour un livre, mettons, il n'est pas à 20 euros, il est à 17 euros, mais je suis nulle en maths. Mais pour un livre qui coûte 20 euros, en fait, tu vas toucher 1 euro. Et bah, c'est pas possible, en fait. Enfin, ça veut dire que t'en vends 2000, tu touches 2000 euros. Sachant que c'est plus ou moins ce que tu vas vendre, sauf si tu as du succès, etc., pour, en fait, 6 mois de travail, plus, avant ça, en fait, c'est le combo de 10 ans d'expérience. Donc, en fait, c'était pas possible. Et il y avait vraiment ce truc-là de se poser la question de comment est-ce qu'on peut en fait, comment on peut trouver un modèle économique qui soit différent, qui marche pas pour tout le monde, parce que si j'écrivais un livre en mon nom propre, par exemple, je le ferais pas. Mais là, comme on savait déjà qu'on avait une communauté, on s'est dit, bah, on va essayer de le faire d'une autre manière. Et KissKiss, pour nous, c'était vraiment une plateforme parfaite pour faire ça, parce que ça nous a permis à la fois de le faire connaître à des personnes qui ne connaissaient pas Clit Révolution, et à la fois à ce que les personnes qui connaissent Clit Révolution encouragent le projet, en fait, l'idée, c'était ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était on fait une première édition qui est notre auto-édition, où du coup, on se fait financer, en fait, par notre communauté. Et ensuite, par derrière, on revend nos droits aux éditions des femmes qui, elles, vont faire une autre édition, mais en fait, où c'est exactement le même contenu. Et elles vont permettre de faire vivre le livre ailleurs et de faire en sorte qu'il soit disponible partout en librairie, qu'il puisse aller dans des bibliothèques, dans des CDI. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment l'alliance parfaite. Et j'encourage vraiment toutes les autrices et tous les auteurs à financer leur livre par crowdfunding.
Et c'était la suite, en fait, ce livre de votre projet autour du monde. J'imagine que dedans, vous avez mis un peu toutes les leçons que vous avez pu tirer de ce que vous avez appris, en fait, des activistes que vous avez rencontrés.
Ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, on s'est retrouvés à la fin de la série avec la question déjà de est-ce qu'on fait une deuxième saison, parce que...
Oui, parce qu'en plus, la série se termine sur... c'est la fin de la première étape ou c'est quelque
du
chose comme ça.
Volet.
Voilà, du premier volet.
C'est la
volet.
Fin du premier volet et on ne savait pas très bien ce que serait le deuxième volet. On pouvait évidemment tout à fait refaire une deuxième saison. Sauf qu'on avait l'impression qu'entre-temps, il y avait eu beaucoup de contenu vidéo autour des questions de sexualité, de plaisir féminin, etc. Et on voulait voir où ça allait et on ne voyait pas trop l'intérêt de refaire un truc qui soit exactement pareil. Donc, on était un peu perdu sur ce truc-là. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que... On s'est dit, mais en fait, c'est pas ça qu'on doit faire. La deuxième étape, ça doit être ce manuel d'activisme, parce qu'on reçoit énormément, énormément, énormément de messages de jeunes filles et de jeunes femmes qui veulent... qui disent, bah, je suis féministe, mais j'ai envie de passer à l'action, mais je sais pas comment faire. On était devenu vraiment un cabinet de conseils d'activisme. Je passais vraiment un temps fou sur Instagram à conseiller des femmes sur des actions qu'elle voudrait faire et où elle savait pas, les risques légaux, machin, etc. Et du coup, pour nous, c'était important de se dire, ben en fait, la transmission de ce savoir-là, elle est hyper précieuse. Et plutôt que de, à chaque fois, avoir des nouvelles femmes qui s'engagent, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans les rangs du féminisme, plutôt que de, à chaque fois, les laisser se galérer à essayer de trouver la forme qui leur convient, etc., pourquoi ne pas compiler tous les conseils d'activistes qu'on a autour de moi, qu'on a autour de nous. Et voilà, en fait, leur fournir un peu comme des tutos. Dans le livre, il y a littéralement des tutos d'activisme, des tutos de collage, des tutos de faire une campagne sur les réseaux sociaux, des tutos de comment réussir à prendre la parole en public. Enfin, vraiment des choses banales, mais hyper importantes dans l'activisme.
Même des choses très concrètes sur quels sont mes droits en garde à vue.
Quels sont mes droits en garde à vue, quels sont mes moyens d'action face au cyberharcèlement.
Et donc tout ça, c'est une compilation de vos deux expériences et de ce que vous avez appris au contact des femmes que vous avez rencontrées autour du monde, ces femmes qui ont du clito que vous êtes allées voir.
Après, les conseils, ils viennent essentiellement des activistes françaises. Donc on a aussi demandé... par exemple, il y a Ina Shevchenko, qui est leader de Femen, qui nous parle de comment, quels sont les ingrédients d'une action réussie quand c'est une action dans l'espace public. On a, j'essaie de me souvenir, Thomas Messias, qui est journaliste, mais qui est aussi prof de maths, parce que chacun ses défauts, et qui nous explique quels sont les règlements au collège et au lycée, et comment est-ce qu'on peut essayer de faire changer les règlements à travers les conseils de vie scolaire ou les conseils de vie de lycée, etc. On a Shanley McLaren, qui est une jeune étudiante, mais qui, à l'époque, quand elle était lycéenne, avait organisé avec ses amis le blocus de son lycée, qui était à Pontoise, parce qu'en réaction au trop-plein de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle qu'il pouvait y avoir à l'école entre élèves. Et donc, elle explique, par exemple, comment faire un blocus. On a une autre étudiante qui nous explique comment organiser une occupation de bâtiment. En fait, on a plein de personnes différentes qui ne sont pas forcément les personnes de la série. Au final, il y a très peu de personnes qui sont des personnes qui sont dans la série. Même, je crois qu'il n'y en a pas. Même si on les cite de temps en temps. Mais c'est essentiellement, en fait, des activistes françaises, féministes, quasiment toutes des femmes. Sauf Thomas Messias, mais qui est prof, donc il explique juste comment ça se passe à l'école. Mais sinon, toutes les autres, c'est des personnes qui ont elles-mêmes mis au point des techniques et qui donnent leurs conseils, que ça soit pour rédiger un communiqué de presse, que faire en garde à vue, c'est nous qui l'avons fait avec notre avocate. On propose des activités ludiques pour faire passer le temps.
L'expérience, parfois, ça sert aussi à ça.
L'expérience, ça sert à ça. Et aussi, on fait des conseils de... Parce qu'en fait, quand t'es en garde à vue, t'as le choix entre deux plats qui peuvent varier. Et donc, je le dis pour les personnes qui ne peuvent pas lire le livre, il faut toujours choisir le riz et ne jamais choisir les lasagnes. Donc, il faut choisir le riz ou le blé.
D'accord.
C'est hyper important et ça change tout.
Et ben, du coup, ça donne envie d'aller lire le livre pour avoir les détails, effectivement. Toi, c'est quoi, si t'as une leçon que tu gardais de toutes ces années d'activisme, c'est laquelle? Celle qui était la plus chère, peut-être? S'il y en a une, j'imagine que c'est un choix compliqué, mais...
Je pense que la principale leçon, c'est d'apprendre à communiquer. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense. De communiquer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'arriver à communiquer aux autres, aux personnes qui vont regarder l'action, aux journalistes qui vont te poser des questions là-dessus, etc. En fait, arriver à comprendre quel est le moyen le plus efficace de faire passer ton message et de le faire comprendre, et communiquer aussi entre activistes. Parce que c'est hyper... je trouve ça hyper difficile, en fait, dans des situations où tu peux faire face à une extrême violence, une grosse tension, où il y a des gros enjeux, etc. Parfois, c'est difficile de bien communiquer avec les activistes qui t'entourent. Et pourtant, c'est pour moi vraiment le nœud de... Ouais, c'est la source de tout. Donc, en fait, c'est hyper important, je pense, d'arriver à communiquer facilement, avec bienveillance et en même temps de manière constructive.
Mmh. Oui, parce que d'autant plus que parfois, c'est pas du tout bienveillant, les échanges entre activistes qui sont pas forcément d'accord entre elles.
Ouais.
Et c'est dommage, parce qu'on a toutes le même but à la fin, normalement.
Ouais, ouais, c'est dommage. Et en même temps, c'est compréhensible, parce que je pense que tu peux vite perdre patience aussi, à force de répéter les choses tout le temps. Et en même temps, c'est dommage dans le sens où... Ouais, je pense qu'on a plein de trucs à s'apprendre les unes des autres et ça serait dommage, en fait, de... que ça arrive à un stade où on coupe toute communication entre nous.
Je suis assez d'accord avec ça. Je me demandais aussi si ça avait eu, au-delà donc de la leçon pratique que tu viens de tirer, des conséquences plus personnelles sur toi, toute cette épopée sur... parce que tu partais d'un constat personnel, en fait.
Ouais.
Donc toi, tu l'as vécu, ce changement, du coup ?
Complètement. Ouais, je l'ai vécu, enfin, dans ma manière de tout, dans ma manière de marcher, d'être dans l'espace public, mais aussi dans ma manière de communiquer à l'autre, dans ma sexualité, dans ma vie de couple, dans ma manière même de choisir mes mecs, puisque moi je suis hétéro. Ça a changé plein de choses en fait en moi. Et après, je pense que ça va encore beaucoup changer, mais je vois très bien qu'en fait, je me comporte plus pareil partout, en fait, que ça soit quand je suis seule, quand je suis avec ma famille, je me comporte plus pareil. Je suis plus la même personne.
T'as peut-être plus d'exigences aussi.
Je sais pas si j'ai plus d'exigences, mais en tout cas, je suis plus moi-même. Je fais moins de compromis avec ce qu'on pourrait dire la entre guillemets norme. J'essaye moins d'être à la place qui m'est assignée. J'essaye de prendre la place que j'ai envie d'avoir, en fait. De construire un peu ma place.
Et où est-ce que tu as puisé toute l'énergie qui t'a fallu pour faire ça ? Parce que c'est quand même... Ça fait un certain nombre d'accomplissements, quoi.
Et bah... Mais encore une fois, hein, c'est le groupe. Moi, il y a vraiment un truc où moi, je suis hyper portée par le groupe. Ça prend beaucoup d'énergie, en effet, mais ça procure aussi tellement de... Une sensation de... d'empouvoirment et de... Tu te sens vraiment à ta place, en fait, quand tu fais une action. Il y a vraiment un truc libérateur. Je sais pas, juste crier ou juste avoir ta pancarte avec ton message, ça t'apporte énormément de force. Et c'est là, en fait, que tu l'appuies de la force. C'est dans l'activisme. Enfin, c'est à la fois ce qui t'épuise et à la fois ce qui te donne de la force. Après, je pense aussi que c'est hyper important. Et moi, je l'ai toujours fait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont plus de mal à le faire, mais d'avoir des moments où on prend soin de soi et on se dit, OK, on décroche. Là, tu vas à la piscine pendant... toute la journée et c'est cool, la tête en ton téléphone et c'est cool, tu pars en vacances. Il faut aussi avoir des moments où tu peux décrocher, sinon tu t'en sors pas. Donc moi, il y a vraiment ce truc là de, à la fois je peux me préserver énormément pour ensuite me donner énormément.
Ouais, je pense que c'est un conseil qui est vraiment important à mettre dans sa poche et à ressortir aussi souvent qu'on en a besoin. On s'approche de la fin de l'interview. Et généralement, j'ai au moins une ou deux questions que j'aime bien poser. J'aimerais bien savoir si toi, t'as quelqu'un qui t'a inspiré en particulier dans ta manière d'agir. Je pense que toi, t'es une inspiration pour d'autres, mais est-ce que toi, t'as puisé l'inspiration ?
Ah, mais moi, j'ai plein d'inspirations différentes.
Tu peux nous en donner quelques-unes ?
Il y en a mille, mais pas pour les mêmes raisons, mais toutes les... Bah déjà, toutes les activistes de Femen, je suis en admiration de ouf pour elles. Beyoncé. quand j'étais petite, c'était Rosa Parks. Je voulais trop être Rosa Parks. Je pense vraiment qu'il y a très peu de femmes qui ne m'inspirent pas. C'est-à-dire, j'ai des femmes dans mon entourage, même mes copines, tu vois, qui font des trucs de fou. Mais ça peut être juste en termes de carrière ou... Il y en a, elles font des bébés, quoi. Elles arrivent à continuer à travailler. Je suis là, ouais. Non, il y a vraiment... je pourrais pas répondre à cette question tellement, en fait, la liste est tellement longue que je veux pas en prioriser une plutôt qu'une autre. Mais
c'est une super belle réponse aussi de dire que l'inspiration est partout. Et ta réponse m'amène aussi à une autre question, en fait, que je t'ai pas posée. Est-ce que tu as eu le sentiment de devoir choisir une cause à un moment ? Parce que là, on a compris à travers tout ton parcours que tu es surtout engagée sur le front féministe. Mais est-ce que tu as eu le sentiment de devoir faire un choix avec d'autres possibilités qu'auraient pu être d'autres pistes d'engagement ?
Non, j'ai pas eu le sentiment de faire un choix parce que pour moi c'était vraiment évident puisque c'est ce dont je souffrais le plus. Après, ouais, non, j'ai pas l'impression parce que je sais aussi que si jamais je voulais m'engager dans un mouvement, je sais pas, antiraciste, j'aurais aucun souci à le faire, ou dans un mouvement afroféministe, j'aurais aucun souci à le faire. C'est juste là, je suis bien à ma place, quoi. Mais j'ai pas l'impression de qu'on soit obligé de faire un choix en fait. On peut faire tout en même temps si on veut. Juste c'est fatigant.
Juste faut savoir prendre des pauses.
Ouais, voilà, faut juste savoir prendre des pauses.
Ok, et eh ben merci beaucoup Elvire. Donc je rappelle que votre manuel d'activisme féministe sort le 5 mars aux éditions des Femmes. Il sera disponible un peu partout, j'imagine.
Ouais, en librairie.
Voilà, en librairie. Commandez-le, achetez-le et
prêtez-le pour ceux qui n'ont pas d'argent.
Voilà. Et inspirez-vous. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
Salut, c'est Camille de Pardon Maman et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été sélectionnée par Acast Recommande. Pardon Maman, c'est le podcast qui fait de la vulgarisation comme on aurait aimé en entendre à la radio, à la télé ou de la part de nos profs il y a quelques années. Avec notre équipe de choc, on va creuser des sujets divers et variés pour les présenter de façon factuelle et facile à assimiler, le tout avec aucun veto. On parle des papillons, du cinéma français des années 60 et on passe également par la religion et les hackers. On est souvent accompagné d'invités et toujours d'un petit peu de vin. À très bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.